Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors on est bien content de vous retrouver cette semaine pour le 90e épisode de l'émission. Et aujourd'hui on est trois dans le studio, Axel, Pierrick et Fred.
Bonjour à tous, bienvenue.
Bonjour à toutes.
Alors on est bien content de vous retrouver pour parler d'astronomie avec nous. On vous rappelle, comme d'habitude, en début de chaque émission, le podcast de l'émission hein, sur le site de RDWA, rdwa.fr. Émission thématique, vous trouvez l'étoile polaire. Là, vous avez tout depuis le début avec les photos qui illustrent ces podcasts, de belles photos du ciel de Rémi et Axel. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser à un petit truc, c'est que de temps en temps, on a des retours hein, de gens qui... ça nous arrive d'avoir des retours de gens qui écoutent l'émission. Ou alors, soit qu'ils l'écoutent régulièrement, soit qu'ils tombent dessus. Et assez régulièrement, il y a quand même un peu cette idée que oui, c'est chouette, mais on comprend pas toujours tout. Alors, j'avais envie de vous dire, en fait, quelque part, ce podcast, il sert à ça. Il sert à se dire, si on écoute tout depuis le début... En fait, au final, il y a 90 émissions et petit à petit, ça, à force d'entendre des choses, même si on ne comprend pas tout sur le moment, les choses elles se mettent en place, les petites briques elles se mettent en place et petit à petit, il y a une vision un peu générale qui se dégage. Et c'est un peu ça aussi le projet de cette émission. C'est une forme d'instruction en astronomie pour tout le monde.
Oui, c'est ouais. Sûr qu'on ne va pas répéter... les bases à chaque émission,
c'est ça.
Ce serait dommage de perdre ce temps d'antenne.
Donc voilà, c'est pour ça que je le mentionne, parce que je trouve que c'est aussi ça l'intérêt du podcast. Ça peut être aussi d'aller chercher des thèmes qui vous intéressent particulièrement, qu'on a traités, mais aussi juste d'écouter ça un peu à la suite et de voir ce que ça fait. Bon, voilà, c'était une petite remarque. Sinon, vous rappelle aussi l'adresse mail de l'émission, astrordwa@protonmail.com, si vous avez envie de nous faire un petit retour ou si vous avez envie de venir participer à l'émission pour nous parler de votre rapport au ciel dans la rubrique Nouvel Œil. Et c'est cette adresse aussi que vous pouvez utiliser si vous avez envie de venir au stage que nous organisons le 18 juillet à Marignac. Donc le 19, ce sera Marignac Fête les Étoiles, une grande soirée publique qu'on organise maintenant pour la quatrième année. Et la veille, le 18, on vous invite donc sur inscription à venir apprendre à utiliser un télescope. Ça veut dire le manipuler, mais ça veut dire aussi apprendre à savoir quoi pointer et comment un peu mettre le pied à l'étrier en astronomie amateur. Alors astronomie amateur, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on observe, en fait, tout simplement. C'est ça la différence... Avec l'astrophysique tout court, où en fait là les observations elles sont pas faites derrière un petit télescope à l'œil, elles sont faites derrière de grands instruments directement sur des détecteurs
et derrière des feuilles de calcul
et des ordinateurs qui traitent tout ça. Et voilà, donc c'est pas du tout le même rapport à l'observation. Donc voilà pour Marignac le 19 juillet, ce petit stage là d'apprendre à utiliser un télescope le 18. Sur inscription donc à l'adresse mail astrordwa@protonmail.com. Ensuite il y a aussi On the Moon Again, alors ensuite plutôt avant, puisque là ce sera les 6 et 7 juin. Donc si vous écoutez la première diffusion, eh bien c'est le week-end prochain. Si vous écoutez la deuxième, eh bien c'est trop tard.
Donc, j'espère que vous étiez là.
Voilà. Donc les vendredis 6 et samedi 7 juin, on sera sur la place de la cathédrale à Die pour vous faire observer. Alors à partir de 18h, le soleil, dans un instrument dédié à ça. Et puis à partir de 20h, la lune. Voilà, donc si vous avez envie de venir, c'est gratuit, nous rejoindre, passer pour jeter un œil à l'oculaire et observer un peu ces astres qui nous entourent, vous êtes les bienvenus. Pardon. Et, évidemment, tout ça dépend de la météo, hein. Il faut que le ciel soit dégagé. Si on arrive à le faire ni le 6 ni le 7, eh bien on le fera le dimanche 8, séance de rattrapage, si c'est le seul jour qui est beau. Voilà, on verra un petit peu ce que nous réserve la météo. Voilà pour cette introduction à l'émission. On va donc dérouler le sommaire de ce 90e épisode. On va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir. Ensuite, ce sera quelques actualités du monde de l'astronomie. Ensuite, ce sera la chronique astrale. Et cette semaine, je vais continuer un peu ma série d'émissions sur les astronomies, l'astronomie dans les différentes longueurs d'onde. Et cette semaine, on parlera des ultraviolets. Après la pause musicale, ce sera la rubrique Abrac. Et une fois n'est pas coutume, la rubrique Abrac contiendra deux thématiques. La première avec Pierrick qui nous parlera du pendule de Foucault. Ouais. Et la deuxième avec Axel qui nous parlera de l'hypertélescope de Barcelonnette.
Exactement. Un projet ambitieux, pas très loin de chez nous finalement, dans les Hautes-Alpes.
C'est pas si loin Barcelonnette. Moi, c'est quoi, 2 heures de route ?
2 heures, oui. Ouais.
Alors voilà pour tout ça. On va commencer donc avec le ciel ce soir. Alors, une fois de plus, si vous arrivez à passer à travers les nuages, puisque ça continue quand même, on a des ciels très, très couverts, qu'est-ce que vous pouvez voir ? Alors, au moment du coucher du soleil, on a quelques étoiles brillantes là qui sont directement dans le ciel. Vers l'ouest, eh bien, on a le Capella du Cocher. Aldébaran qui est vraiment en train de se coucher, qui est vraiment dans les lueurs du couchant. On a les Gémeaux qui sont là, Castor et Pollux. On a aussi Procyon en dessous, dans le Petit Chien. On a le Lion qui trône plein sud avec son étoile bien brillante Régulus. Et si on continue vers l'est, on va trouver Arcturus, un peu orangé là, dans le Bouvier, et un peu plus bas, l'Épi dans la Vierge. On a aussi Vega qui se lève, ainsi que Deneb. Donc ça, c'est un peu les phares du ciel, Vega dans la Lyre, Deneb dans le Cygne. Les étoiles vraiment bien brillantes que vous ne pouvez pas louper en fait, quand le soleil se couche, et qui vous permettent aussi un peu de vous orienter. Alors pour savoir laquelle est laquelle, ça peut être pas mal d'avoir une carte du ciel, une petite carte mobile, ou bien si vous allez sur Internet, vous trouvez ça. On vous rappelle aussi ce logiciel gratuit là, qui est pas mal, Stellarium, ouais. qui permet quand même de bien se repérer, qui a plein de fonctionnalités intéressantes. On vous encourage, si ça vous intéresse, à le télécharger. Mais sinon, une bonne carte du ciel en carton, ça marche super bien aussi. Et voilà, donc après, on a toujours la région circumpolaire, hein. Je rappelle, c'est cette région autour de l'étoile polaire qui en fait ne se couche jamais, parce que tout tourne autour de l'étoile polaire, donc il y a une partie comme ça du ciel qui est là toute l'année, quoi qu'il arrive, et c'est ce qu'on appelle la zone circumpolaire. Donc avec la Grande Ourse, hein, la fameuse casserole, si vous prolongez le manche de la casserole, son arrondi, là vous tombez sur Arcturus dans le Bouvier. Et sous la Grande Ourse, vous avez le Lion. Donc ça vous donne déjà une petite base. Si vous prolongez le côté droit de la Grande Ourse, vous tombez sur l'étoile polaire qui est dans la Petite Ourse. Et puis symétrique, plus ou moins à la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire, vous avez Cassiopée. Vous avez le dragon qui serpente entre la Grande Ourse et la Petite Ourse. Et puis, vous avez aussi Céphée, cette constellation assez diffuse qui, elle, est entre la Petite Ourse et Cassiopée et qui est là aussi, qui sont une espèce de petite maison avec un gros toit triangulaire. Voilà pour ce ciel de début de nuit. Alors, vous avez également la planète Mars là qui est en train de continuer à transiter entre les Gémeaux et le Lion. Alors en fait, elle était même dans le Cancer il y a pas longtemps. Et là, elle est en train de continuer son voyage. Elle se rapproche de Régulus, du Lion.
Tout en s'éteignant petit à petit.
Effectivement, tout en devenant de plus en plus faible. Et on peut pas dire que les observations de Mars soient forcément très, très intéressantes en ce moment. D'ailleurs, au niveau planétaire, en fait, en ce moment, il y a tout simplement rien.
Saturne,
je peux le mentionner. Alors il y a Saturne qui en ce moment va petit à petit se dégager des lueurs de l'aube, ouais. En fin de nuit, mais c'est encore très bas sur l'horizon. Et en plus, là on est dans une phase, et ça va durer un moment, où les anneaux sont vraiment vus par la tranche, donc on voit quasiment pas les anneaux, on voit une fine ligne.
Oui, ça y est, on a passé le moment où, je crois que c'était au début du mois de mai, le moment où on voyait les anneaux vraiment de profil. Et que du coup on ne les voyait pas. J'ai passé sur les réseaux d'astronomie, sur internet des photos
sans anneaux.
Marrantes, ouais, un peu cocasse. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette planète? C'est marrant.
Et ouais, ça a duré genre 15 jours et après.
À peine, ouais, vraiment. Enfin, il y a toujours un moment où c'est le moment le plus, le plus radical. Après, oui, pendant, c'est ça, ouais, sur une période de 15 jours, c'est. Peut-être un peu plus que 15 jours, sur un mois, ouais.
Ça met un petit temps quand même à revenir.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais c'est assez rapide, je trouve quand même. Bon, c'est très fin comme anneau, mais ouais. Ça me paraît rapide le temps où ils sont là, hop, ils sont vraiment sur la tranche, et genre un mois.
Parce que là, déjà, cet hiver, c'était pas foufou sur les anneaux.
Oui.
Donc là, ça va prendre à peu près le même temps de l'autre côté. Moi, avant de retrouver les anneaux, il va peut-être falloir attendre la fin de l'année.
Ouais, les
15
anneaux, ouais. Ah ouais.
On va trouver un truc un peu joli. Enfin bon, donc voilà, en tout cas, Saturne, c'est pas très propice aux observations. Jupiter est pas visible. On a Vénus qui est assez haute le matin, qui va atteindre son max d'élongation par rapport au Soleil. Mais bon, on l'a déjà dit, Vénus à observer au télescope, ça n'a pas d'intérêt majeur. L'atmosphère étant tellement dense qu'en fait, on ne voit pas la surface. Et donc, on a juste une grosse boule de lumière avec beaucoup de diffraction, rouge, bleu, jaune. Voilà, bon.
On voit sa forme, mais on ne voit pas de.
Voilà, on peut voir des croissants.
Pas de nuances. Oui, voilà,
on peut voir des croissants.
Des phases, ouais. C'est croissants des quartiers. Ouais.
Parce qu'elle fait des phases, hein, comme la Lune. Mais on ne peut pas observer sa surface. Voilà. D'ailleurs, je mentionne, si vous écoutez la première diffusion, ce soir, donc dimanche 1er, vous avez une conjonction entre la Lune et Mars. C'est en début de soirée.
Un rapprochement.
Oui, oui.
À quel point? Elles se touchent?
Non, elles ne se touchent pas, mais elles vont être très près. Donc, en fait, la Lune va être entre Régulus et Mars.
Ah, ok.
Voilà. Alors, si on continue un petit peu le déroulé de la nuit, eh bien, on a le ciel d'été hein, qui apparaît très clairement. Donc, à partir du, si vous repartez du Bouvier, là, vous trouvez à côté la couronne, une espèce de demi-cercle là, avec son étoile bien brillante au centre Margarita, qui vous amène sur Hercule, avec en dessous Ophiuchus. Vous avez le triangle d'été qui se lève entièrement. Je vous ai déjà dit que Deneb dans le Cygne et Vega dans la Lyre étaient levés en début de soirée, mais petit à petit, vous avez l'aigle qui va apparaître. Et puis après, en deuxième partie de nuit, on va avoir le lever de Pégase. On a aussi un peu avant, hein, le Sagittaire qui va être très... le Scorpion et le Sagittaire, qui sont un peu rasants, mais qui sont observables.
C'est tard, ça, non?
Ouais, c'est deuxième partie de nuit. C'est à partir de minuit, 2h.
Ouais.
À partir de 2h. Vous pouvez commencer à voir le Scorpion, puis le Sagittaire, puis Pégase. Et puis avec Saturne qui va se lever, et puis après c'est l'aube. Voilà en gros le déroulé de la nuit en ce moment.
Et ouais. Merci Fred.
Et avec plaisir. Ça va être le moment des actus. Et puis Eric, qu'est-ce que tu nous as préparé?
Alors les actus, en ce moment, il se passe quoi dans le ciel avec les êtres humains qui envoient des fusées dans le ciel? Eh ben, il y a toujours le Starship, qui a la grosse fusée de SpaceX, qui a échoué. Toujours,
qui a encore explosé.
Qui a encore explosé
pour la troisième fois, c'est ça?
Ouais, troisième échec. Ouais. Donc là, quand même, ils avaient réutilisé le même lanceur qu'ils avaient utilisé, il y a pas celui qui a explosé, hein, forcément, mais un lanceur qui avait déjà été utilisé. Et à la redescente, il s'est explosé. Et le vaisseau, donc il y a deux parties dans ce vaisseau, il y a un lanceur et un vaisseau qui part dans l'espace. Et ben ce vaisseau, il a aussi mal fonctionné. La porte de la soute n'a pas pu s'ouvrir, parce qu'il y a une soute où il décharge des satellites. Là, il y avait 8 satellites, des faux satellites, des simulateurs. Cette porte n'a pas pu s'ouvrir. Ensuite, il y a eu des fuites de réservoirs, des fuites d'ergol. Donc il s'est mis à tourner sur lui-même. Il est devenu incontrôlable. Et du coup, il s'est détruit dans l'atmosphère, au-dessus de l'océan Indien, je crois. Voilà. Donc voilà, encore un échec de SpaceX, mais bon, on est habitué à ce qu'il fasse tout péter, on verra le prochain. Sinon, dans les actus, il y a une nouvelle assez surprenante. Ils ont a priori détecté une nouvelle planète naine, qui se prénomme du joli nom 2017 OF201, qui fait a priori 700 km de diamètre. Donc les planètes naines, je le rappelle, il y en a 5 dans notre système solaire pour l'instant, connues. Il y a Cérès qui est dans la ceinture principale, donc entre Mars et Jupiter, il y a une ceinture d'astéroïdes et donc il y a une petite planète qui s'appelle Cérès. Et après les autres, c'est plutôt des transneptuniennes qui sont après l'orbite de Neptune. Donc il y a Pluton hein, qui a été déclassé en planète naine, il y a Oméa, il y a Makemake, je ne sais pas comment on dit comme ouais, ça, je crois, Eris. Voilà, donc il y a ces cinq planètes-là. Donc les quatre dernières là, qui sont transneptuniennes ont des orbites extrêmement elliptiques. Et celle-là, donc 2017 OF201, encore plus. Elle met 250 000 ans pour faire un tour du Soleil. Ouais. Donc c'est vraiment... en fait, elle est passée proche du Soleil il n'y a pas si longtemps. Du coup, c'est pour ça qu'on a pu la voir. Et elle fait de 45 unités astronomiques à 1700 unités astronomiques. Donc ouais. C'est vraiment loin.
Ça, c'est petit, ouais, c'est très loin.
Ouais. Ouais,
parce que Pluton, c'est 150 ans, je crois, la révolution de Pluton.
Ah, je sais pas.
Mais c'est quoi, c'est 40 UA, Pluton, à peu près, non ? 50 ?
Ouais, Neptune, c'est 30.
Ouais, Neptune, déjà. C'est 30, donc on est autour de 40 pour Pluton.
Ouais, je crois.
Donc là, 1700, tu dis ?
Bon, plus long, ouais.
C'est,
ah oui.
C'est lointain.
Très, très loin.
Pour rappel un peu, une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc entre le Soleil et Jupiter, il y a 5 unités astronomiques. Entre le Soleil et Saturne, il y en a 10. Entre le Soleil et Uranus, il y en a 20. Et entre le Soleil et Neptune, il y a 30 unités astronomiques. Voilà, petit rappel.
Yes.
Et du coup, ils ont découvert cette planète en analysant des archives astronomiques qui sont en accès libre. En fait, les données étaient là depuis quelques années. Et
personne n'avait mis le doigt dessus.
Non, en fait, en prenant du temps d'analyser toutes ces données, et ben, ils ont coupé des données de plusieurs observations et ils ont réussi à trouver cette planète qui se cache dans le système. Ce qui me fait penser, alors je change de sujet, mais je vais parler maintenant de la sonde Voyager 1, qui elle est à 166 unités astronomiques. Donc elle est quand même vachement loin.
Ouais.
Donc Voyager, c'est la sonde, le vaisseau spatial le plus loin que l'être humain ait jamais envoyé. Donc il est vraiment loin. Et là, ils ont effectué une réparation qu'ils ont réalisée à 166 unités astronomiques. 25 milliards de kilomètres pour une sonde qui a 48 ans, qui a été lancée en 1977. Donc c'est quand même pas rien et qui marche encore. Donc quel était le problème ? Le problème, c'était que l'antenne qui sert à communiquer avec cette sonde Voyager, il n'y en a qu'une qui fonctionne bien, elle est en Australie, à Canberra. Et elle allait subir des réparations, cette antenne. Et donc les communications allaient être coupées pour la sonde pendant un certain temps. Et donc, pour éviter que la sonde, en fait, petit à petit, cette sonde Voyager, elle s'écarte un peu de sa trajectoire et en fait, son antenne qui sert à communiquer avec la Terre dévie un petit peu et elle est plus orientée vers la Terre. Donc là, on perdrait toutes les communications et on pourrait plus rien faire. Donc, il faut qu'elle reste bien connectée. Et pour qu'elle reste bien connectée, elle a des capteurs, cette sonde, qui permettent de trianguler des étoiles, qui permettent de rester dans sa trajectoire. Et elle a un système automatique que si elle se dévie, il y a des petits réacteurs qui se mettent en marche pour la remettre dans le bon axe pointé vers la Terre. Mais si cette manip se fait automatiquement, ils avaient peur qu'il y ait un problème. Parce que le réacteur principal était en panne depuis une vingtaine d'années. Suite à un problème de réchauffement de carburant, parce qu'il fait tellement froid dans ces parties, elle est tellement loin du soleil qu'il fait très froid, et pour faire fonctionner un propulseur, il faut réchauffer le carburant avant, comme un diesel, on préchauffe, c'est la même chose un peu au fin fond de l'espace.
J'imagine Voyager qui fait un bruit de diesel.
Et du coup, ils avaient peur que si ça se passe automatiquement, cette manip, ça allait foirer. Du coup, ils ont fait une manip par radio volontaire. Et donc, ils lui ont envoyé les commandes. Donc, ça a mis 23 heures aller pour arriver jusque là-bas. Donc, 46 heures aller-retour. Ils ont réussi à rallumer le préchauffage et donc à rallumer le réacteur qui était censé être perdu depuis 20 ans. Donc, et ça a marché, c'est un succès. Elle s'est retrouvée dans le bon axe, pointée vers la Terre. Son antenne de quand même 3,4 mètres de diamètre, c'est quand même un beau bébé, qui pointe dans le bon sens. Et la sonde est toujours opérationnelle pour une sonde donc de 48 ans, lancée en 77. C'est quand même un beau défi, je trouve, réalisé. Il faisait des choses costauds, quoi. C'est balèze, je trouve.
Ouais. Nous, on change de frigo tous les ans.
Voilà. Vous voyez, non, quand même pas. Mais... j'ai toujours là. Et voilà, pour les actus pour moi.
Ok, merci Pierrick. On va passer à la suite de l'émission. Et donc là, ça va être la chronique astrale. Cette semaine, je vous parle d'astronomie ultraviolet. Alors, dans la dernière émission, j'avais commencé une petite série là sur donc l'astronomie dans les différentes longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Donc, on rappelle, on a ce qu'on appelle le visible, ce qu'on appelle communément la lumière, donc qui est comprise entre le rouge et le bleu. Et puis en fait, on a d'autres longueurs d'onde qui sont... Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'infrarouge, qui se situe sur la longueur d'onde un peu plus grande que le rouge. Et puis, on a aussi... donc, si on continue dans cette direction-là, on trouve les ondes radio. Donc, je vous ferai une prochaine émission sur la radioastronomie. Et puis, si on part du côté du bleu, cette fois, on va trouver d'abord les ultraviolets, dont on va parler aujourd'hui, puis les rayons X et les rayons gamma, en allant vers des rayonnements de plus en plus énergétiques. Donc là, sur les ultraviolets, on est sur des longueurs d'onde qui sont entre 320 nanomètres et 10 nanomètres. Donc on commence en fait à avoir des longueurs d'onde plus petites que le visible. Hein. On rappelle, plus la longueur d'onde est petite, plus le rayonnement contient d'énergie. Plus la longueur d'onde est petite, c'est-à-dire plus la fréquence est grande, donc plus l'énergie est grande. Alors ce rayonnement ultraviolet, de la même façon que le rayonnement infrarouge, il est absorbé par l'atmosphère. Donc, si on veut l'étudier, on est obligé d'aller dans la haute atmosphère ou d'utiliser des télescopes spatiaux. Alors, on le sait, hein, que les UV, on nous le dit, hein, que les UV, ils protègent la Terre, en fait. L'atmosphère protège la Terre des UV du Soleil, en fait. Parce que c'est quand même... si ces ultraviolets y passaient, en tout cas, nous, on ne serait pas adaptés, quoi. Les humains, même les végétaux, tout ça, ce rayonnement, il est trop énergétique. Donc c'est lui qui crée des coups de soleil, des choses comme ça.
Ouais. Et qui peut même aller altérer l'ADN et créer des mutations.
C'est ça. Donc en fait, le fait que l'atmosphère absorbe les ultraviolets du soleil, quelque part, ça crée aussi les conditions pour la formation de la vie telle qu'on la connaît, en tout cas.
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors, d'autre part, c'est pareil que pour l'infrarouge, hein, le ciel vu en ultraviolet depuis la Terre, mais il est très différent du ciel dans le visible. En fait, la plupart des étoiles sont très faibles dans l'ultraviolet. Donc, en fait, on a un ciel qui est assez sombre au final quand on regarde en UV, sauf quelques étoiles jeunes, bien massives, qui, elles, bombardent en ultraviolet, ou alors des étoiles plus ou moins en train de mourir. Par exemple, on en reparlera, mais les supernovas, les choses comme ça, ou même les novas d'ailleurs, ça envoie pas mal de rayonnement UV. On a aussi certaines galaxies qui ont des noyaux assez actifs et qui sont visibles en UV. Mais le truc, c'est que les rayonnements ultraviolets, ils sont bloqués par le gaz et la poussière. Donc en fait, il y a énormément de régions qui sont opaques. Donc, en fait, le ciel UV, depuis la Terre, il est vraiment...
Alors, tu veux dire qu'on n'en voit qu'une toute petite partie qui arrive jusqu'à nous, quoi.
Voilà, je dis deux choses.
Bloqué par les poussières
interstellaires. Je dis que, d'une part, il n'y a pas beaucoup de sources de rayonnement ultraviolet dans l'espace. Et que, deuxièmement,
il
y a beaucoup d'obstacles à la propagation de cette lumière. Et en particulier, tout ce qui est milieu interstellaire, en fait. Ou même milieu intergalactique, en fait. Tout ce qui est... Les nuages de gaz et de poussière qui vont bloquer ces UV. Par contre, on peut les étudier eux-mêmes, étudier leur rayonnement à eux, à ces nuages de gaz. Et j'y reviendrai après. Mais on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. D'accord. Contrairement à l'infrarouge, où on pouvait faire les deux. L'infrarouge, j'en avais parlé la semaine dernière, mais en fait, au contraire, l'infrarouge permet d'observer le centre des galaxies, etc. Alors qu'avec les UV, on ne peut pas du tout. Voilà, donc le type de détecteur qu'on utilise, c'est assez comparable en fait pour le coup au visible. On a des caméras ou des spectroscopes. Donc on peut faire voilà, soit de la photométrie, regarder vraiment l'énergie qui arrive, soit faire des spectres aussi dans le domaine ultraviolet. Et là aussi, on verra, ça a des intérêts. Alors, historiquement, l'astronomie UV, elle a démarré à la fin des années 50, tout début des années 60, avec des ballons qu'on envoyait dans la haute atmosphère, en fait, avec des détecteurs pour faire un peu les premières mesures. Et sinon, en 1962, il y a 8 satellites qui ont été envoyés à partir de 1962. Donc, c'était le Orbiting Solar Observatory, dont un satellite assez connu qui s'appelle Copernicus, qui a décollé en 1972. Et en fait, tout ça avait quand même pour but d'observer à l'époque le Soleil. C'est quand même la plus grosse source de rayonnement ultraviolet qu'il y a autour de nous. Et puis, ça a intéressé les gens en termes de connaissance de notre étoile.
Ouais. Et sous un autre angle.
Évolution stellaire. Voilà, d'avoir plus d'informations en fait, sur la façon dont le Soleil rayonne et de pouvoir accéder donc, aux longueurs d'onde. Mais il a fallu attendre ces années 60, pour, voire 70, pour avoir un peu du matériel et puis pour pouvoir l'envoyer dans l'espace pour avoir des données correctes, quoi, parce que jusque-là, sinon, on ne pouvait pas savoir. Alors ensuite, entre 1978 et 1996, il y a un outil qui s'appelle International Ultraviolet Explorer, qui en fait, lui, était le premier observatoire spatial dirigé en temps réel depuis le sol. Donc, okay. En fait, les astrophysiciens pouvaient pointer directement depuis le sol ce télescope-là qui observait dans l'ultraviolet. Ensuite, entre 1999 et 2007, ça a été FUSE, donc Phare Ultraviolet Spectroscopique Explorer. Donc, lui, c'est probablement la mission, enfin, l'instrument qui a donné le plus de résultats en UV dans l'histoire récente de l'astronomie. C'était un projet conjoint entre la NASA et le CNES. Au passage, Hubble aussi avait un détecteur ultraviolet. Donc, ouais. Hubble, à l'époque, pouvait observer un petit peu dans l'UV. Et puis, alors là, je vous parle d'un projet futur, puisqu'il n'a pas encore été lancé. Ça s'appelle Ultrasat. C'est un projet israélien qu'ils ont prévu d'envoyer en 2027. Et lui, en fait, c'est un instrument un peu différent, c'est-à-dire qu'il a un très grand champ d'observation. Et son but, c'est plutôt de détecter en amont des phénomènes énergétiques. Donc, parce qu'en fait, quand il y a une supernova, par exemple, il y a d'abord en fait une bouffée d'ultraviolet qui est envoyée avant le rayonnement visible. Ah oui. Donc, qui va arriver avant. Donc, l'idée en fait de ce satellite-là, c'est de balayer un peu le ciel et de voir dès qu'il y a une source UV en fait qui commence à se manifester, de pointer du télescope visuel dessus.
Prévenir les autres.
Pour être prévenu en fait et pour pouvoir pointer en visuel. Voilà, c'est surtout ça en fait l'intérêt de ce projet-là et en particulier donc l'étude des supernovas pour pouvoir en détecter beaucoup plus que ce qu'on détecte actuellement. Voilà un peu pour les instruments qui ont servi à développer cette astronomie UV. Maintenant, en termes de science, qu'est-ce qu'on étudie ? Donc, j'en ai un peu parlé, mais on va reprendre un peu ça. Dans ces longueurs d'onde, tout d'abord, on étudie le milieu interstellaire, voire le milieu intergalactique. Puisque j'ai dit, en fait, le rayonnement UV, il est arrêté par ce gaz ou par ces poussières. Mais en fait, les gaz chauds émettent de l'ultraviolet. Donc, on parle là de gaz chauds. Donc, en fait, on a pu, grâce à, en particulier, FUSE, déterminer un peu la densité, la température, la quantité, la distribution, en fait, de ce gaz chaud dans la Voie lactée. Et on s'est rendu compte que c'était une masse, en fait, qui était très importante. En réalité, dans la masse d'une galaxie, il y a la masse des étoiles, c'est une partie, mais la masse en fait de la matière interstellaire, c'est loin d'être négligeable. Voire parfois, selon les galaxies, ça peut être supérieur à la masse des étoiles qu'on peut observer. Donc c'est important aussi de les étudier. Donc comme je l'ai dit, en fait, ce qui émet aussi des rayons ultraviolets, c'est les nébuleuses planétaires, c'est-à-dire les restes de novas. Donc les nébuleuses planétaires, nous, on en observe en astronomie. Ça peut être par exemple la nébuleuse de la Lyre. Il y a celle du Hibou aussi, et puis il y en a pas mal en fait des nébuleuses planétaires. Donc ça, c'est le reste d'explosion d'une nova. Donc c'est une nova, c'est moins violent qu'une hyper, qu'une supernova. Donc en fait, on a une structure qui reste en comme une, c'est une sphère en fait de matière qui est éjectée et qui s'éloigne de l'étoile. Et donc quand on l'observe nous en projetant sur le fond du ciel, ça fait ça fait comme une petite planète. Ça fait un disque en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça une nébuleuse planétaire. C'est que c'est du gaz, mais ça ressemble à une planète. Par contre, physiquement, ça n'a aucun rapport avec une planète. On a bien affaire à une étoile qui a explosé. Et puis aussi, pour donc les restes de supernova, pareil, qu'on observe, par exemple, les dentelles du Cygne, qui sont les restes d'explosions beaucoup plus violentes, où là, du coup, on se retrouve avec des structures très déchiquetées, qui ne ressemblent plus du tout... qui ne sont plus du tout sphériques. Quoi.
Ah ouais.
Donc on étudie ça, on étudie aussi l'évolution stellaire et l'évolution galactique. Parce que comme je l'ai dit, là, il y a quelques étoiles qui émettent... en fait, les étoiles massives, au moment de leur naissance, au début de leur vie et au moment de leur mort, vont émettre des ultraviolets. Donc on va pouvoir avoir des renseignements sur la façon dont une étoile naît et sur la façon dont une étoile meurt. Donc avoir un intérêt en évolution stellaire. De la même façon, dans les galaxies, là, on étudie les noyaux actifs de galaxies. Alors, c'est certaines galaxies qui ont, en fait, un cœur très énergétique. Alors, ça, c'est probablement dû à la présence de trous noirs supermassifs, de quasars, de choses comme ça. Mais en attendant, on appelle ça des noyaux galactiques actifs, et on les étudie aussi pour essayer d'en savoir plus sur l'évolution des galaxies. Et puis, la dernière chose qui est intéressante, en fait, avec les ultraviolets, c'est qu'on a accès à la composition chimique. Donc, c'était pareil pour l'infrarouge aussi. En fait, chaque longueur d'onde, surtout celles qui sont près du visible, et y compris le visible, permettent d'étudier les spectres de la lumière qui nous parvient. Et on a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais dans ces spectres, il y a la signature des éléments chimiques. Puisque chaque élément va réagir de façon un peu différente avec la lumière et donc va absorber certaines longueurs d'onde et pas d'autres, ou s'il est excité, émettre ces mêmes longueurs d'onde et pas d'autres. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on identifie la matière qui est dans l'univers. Et en particulier, il y a plusieurs. Alors selon les longueurs d'onde, on étudie des corps différents. Là, en l'occurrence, dans l'ultraviolet, on a l'hydrogène, mais l'hydrogène moléculaire, donc H2, qui a une signature dans l'ultraviolet. Alors ça, c'est intéressant, l'hydrogène, pour les astrophysiciens. Bah, c'est quand même ça le matériau de base pour la formation des étoiles, pour tout un tas de choses. Et en particulier, on a aussi ce qu'on appelle le deutérium. Alors, le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là, en chimie, en fait, hein. Un isotope, l'isotope d'un élément, c'est le même élément, mais avec des neutrons en plus, dans son noyau. Et du coup, il a des capacités, des propriétés différentes, etc. Et là, en l'occurrence, le deutérium, par rapport à l'hydrogène, il y a un neutron en plus. Donc, l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple de toute... la création, c'est un proton et un électron qui est autour. Et là, le deutérium, il y a un proton et un neutron et un électron. Et en fait, ce qui est intéressant pour les astrophysiciens, c'est d'étudier le rapport entre l'hydrogène, alors cette fois l'hydrogène atomique, et le deutérium. Parce que en fait, ça va trancher en cosmologie sur différents modèles. Parce qu'au moment du Big Bang, il y a l'hydrogène qui est créé, il y a aussi l'hélium, mais il y a aussi le deutérium, en fait. Il y a aussi des isotopes, puisqu'on a tout un tas, en fait, de particules qui se baladent et qui bombardent les choses, et ça forme aussi des isotopes. Mais selon les modèles de cosmologie, et là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon j'en sais rien, on trouve différents ratios, en fait, qu'on est censé observer entre l'hydrogène et le deutérium. Et donc, on étudie ce ratio-là en utilisant l'astronomie ultraviolet. Voilà pour ce petit topo sur cette partie de l'astronomie qui n'est pas du tout la plus développée. Hein. L'astronomie UV, c'est pas quelque chose de...
Oui, si on compare Oui, les trois grandes, c'est visible, rayon X et infrarouge.
Infrarouge, rayon X, ouais. Et puis, il y a quand même les ondes radio.
Les radios.
Radiotélescope, c'est quand même une grosse partie de l'astronomie. Ouais. Infrarouge, c'est clair. Ouais. Rayon X, oui, et gamma, en fait, quand même. Je dirais que, mais bon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Le truc, c'est que on n'observe pas non plus les mêmes choses. X et gamma, on part sur des choses très énergétiques. On vient étudier un peu les objets extrêmes de l'univers. Mais en tout cas, pour ce qui est de la connaissance, on va dire la plus courante de ce qui se passe, c'est quand même le visible, l'infrarouge et la radio.
Ouais.
Et bon, l'ultraviolet, il a quand même un intérêt.
Ouais, il a sa place.
Il a sa place, mais voilà, c'est pas non plus le thème central. Je pense qu'il a eu aussi beaucoup sa place dans les années 70, quand on a commencé à vraiment observer le Soleil, en fait, et à commencer à construire les modèles d'évolution stellaire, etc. Là, il a joué un rôle. Mais il va continuer à se développer. Il y a des gens qui travaillent sur l'ultraviolet. Et donc voilà, ça fait tout à fait partie de la recherche actuelle. Voilà pour cette petite chronique.
Merci.
Et dans l'espace, dans la station spatiale, les UV, ils arrivent à fond, du coup.
Ouais.
Et du coup, il y a de grosses protections pour les êtres humains dans la station spatiale.
Dans la station spatiale, alors j'ai pas les détails d'ingénierie, mais de toute façon, il y a forcément tout un tas de boucliers qui sont créés par la coque et qui empêchent les particules énergiques de rentrer. Parce que les UV, c'est déjà une chose, mais il y a surtout du X, du gamma. Ouais. En fait, c'est tout pire. Un tas de trucs qui en fait te tuent directement, quoi.
Ouais, ouais.
Donc ça, on le sait, hein, le problème des sursauts gamma du soleil ou des tempêtes solaires qui peuvent arriver s'il y a un cosmonaute qui est en sortie. Et c'est un des problèmes aussi qu'ils rencontrent déjà par rapport à la Lune. Parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a rien qui protège. Et donc en fait, si d'un coup le Soleil, et on a 8 minutes pour réagir en fait. Mm-hmm. Tu vas détecter entre le moment où tu détectes la lumière et où les particules arrivent, il n'y a pas long. Donc en fait, même sur les questions lunaires, ils commencent à se poser la question parce que ça fait partie du problème. Mais oui, dans tous les vaisseaux où il y a des humains, de toute façon, en fait, il y a de la matière autour qui empêche les rayonnements énergétiques de rentrer dans l'habitacle.
Ouais, je sais pas dans quelle mesure, parce que juste la visière, par exemple, d'un cosmonaute, c'est un bout de verre plastique, je sais pas. Ouais. Ça paraît fin, et si tu dis que ça peut te cramer en une seconde.
Non, mais pas les UV vont pas te cramer en une seconde, mais si tu prends un sursaut gamma du soleil, t'es mort, c'est sûr.
Ça t'irradie, de toute façon.
Ah oui, ça t'irradie, ouais. Ça t'irradie, ça peut te faire des mutations, puis surtout ça va te tuer.
C'est une radiation en fait,
c'est des radiations.
Ça te dégénère l'ADN quoi. Ouais.
Ça peut, ouais.
Ah ouais.
Okay. Avec une crème solaire indice 8000.
Indice 8 millions, ça peut passer. Donc voilà pour cette chronique, on va passer à la pause musicale. Axel, cette semaine, tu nous as préparé un petit morceau.
Un petit morceau de chanson française avec Alain Souchon, « La vie ne vaut rien ».
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. Espère dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère. mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes.
Retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. On va continuer cette émission avec la rubrique Abrac. Et pour commencer, Pierrick, cette semaine, tu vas nous parler du pendule de Foucault.
Eh oui, on a tous entendu ce nom, le pendule de Foucault, sans trop savoir ce que c'est. Hein. Moi, le premier. Je sais pas, vous savez ce que c'était.
Eh oui.
Fred, toi, t'es trop fort. Axel, tu savais.
Ouais. Enfin, oui. Il y a un moment où je ne savais pas, mais...
Okay. On peut mentionner aussi le roman très célèbre de Umberto Eco.
Ah oui, je connais pas.
Bon, il faut se le farcir, ce n'est pas une lecture facile, mais c'est quand même vraiment très très bien.
Ah, ça, je ne connais pas. Enfin, l'auteur, je vois, mais... Qui parle de ça?
Bah, c'est le titre, après, dedans, il y a un pendule,
c'est un
mais...
C'est polar, non c'est...
En réalité, on est... C'est une espèce de truc à l'Umberto Eco, donc une espèce de complot ésotérique.
Ouais. Bon, ok, voilà. Très bien. Mais alors en vrai, qu'est-ce que c'est?
Alors le pendule. Donc comme son nom l'indique, c'est un pendule. Hein. Donc là, on est en 1851 à Paris, sous la coupole du Panthéon. Et là, Monsieur Foucault nous invite à voir l'expérience simple et grandiose de voir tourner la Terre. Ah. Donc c'est une expérience, hein. Donc c'est un fil d'acier de 67 mètres de long, donc elle est haute hein, la coupole là-bas, un fil de 1,4 mm de diamètre accroché au sommet de la coupole, à l'extrémité duquel était attaché un poids de 28 kg, avec une fine pointe qui touche presque le sol à peine. Donc comment ça se passe le déroulement? Donc il tirait la boule sur un côté à 3 mètres, et il faisait brûler cette ficelle qui tirait la boule sur le côté. Ainsi, le pendule oscillait de 6 mètres d'amplitude et de 16,5 secondes par aller-retour. Et au lieu d'osciller dans un plan simple, comme on pourrait l'imaginer, et conserver son orientation initiale sur un plan, le pivot semblait se décaler un tout petit peu à chaque aller-retour. Et pour prouver ce décalage, Foucault, il fait ça bien quand même, je trouve. Il dispose un petit muret de sable en cercle tout autour de cette pointe. Et ainsi, à chaque aller-retour, la pointe vient caresser gentiment le sable et prouver ce décalage. Et ainsi, en 5 minutes et 18 allers-retours, la pointe s'est décalée de 5 cm dans le sens rétrograde de la rotation de la Terre. Et du coup, il effectue un tour complet. Alors, non pas en 24 heures, comme on pourrait l'imaginer, mais en 31 heures. Parce que pour avoir les 24 heures, il faudrait être au pôle pour que ça se passe comme ça. Et comme là, la Terre est inclinée, ça décale ce temps-là. Bon, après, ça a l'air simple comme ça, mais en vrai, c'est très compliqué. En tout cas, son expérience simple, qui a été maintes fois reproduite dans le monde et encore maintenant, prouve le mouvement de la Terre. Et je voulais citer Camille Flammarion, le célèbre astronome français, qui 50 ans plus tard refera l'expérience et nous dira, je cite, « La plus magnifique leçon d'astronomie populaire qui ait jamais été donnée au grand public est assurément l'expérience mémorable faite ici même par Léon Foucault. C'était la démonstration pratique, évidente, majestueuse du mouvement de rotation de notre globe et l'affirmation grammaticale du titre de planète ou astre mobile pour le monde que nous habitons. » Et oui, je rappelle qu'on est en 1850 et qu'on ne sait pas tout de ce qui se passe dans l'espace comparé à nos jours actuels.
On ne sait toujours pas tout non plus.
On ne sait toujours pas tout, mais...
On savait moins en 1850.
Mmh. Voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé cette expérience simple, efficace.
Il est toujours hein, ce pendule dans le... Suspendu au... Enfin, je ne sais pas si c'est le même, probablement pas, mais il y a toujours un pendule accroché à la coupole du Panthéon de nos jours, à Paris.
Vous avez déjà vu cette expérience, Fred? Tu l'as vu, toi?
Moi, je l'ai vu, ouais. Alors, ce n'était pas au Panthéon, je ne saurais plus te dire où c'était, mais effectivement, en fait, ça arrive des fois qu'ils montent un pendule de Foucault, comme ça, pour illustrer ça dans certaines expositions. Et c'est vrai, et c'est chouette. En fait, l'idée, c'est déjà un pendule. Qu'est-ce qu'on appelle un pendule en physique? C'est juste, en gros, une masse qui va osciller, donc au bout d'un fil.
Okay.
C'est ça, un pendule. Je précise juste le terme. Et si en fait, l'idée effectivement, c'est qu'on lâche ce pendule et donc il oscille dans son plan de départ. Et en fait, il va rester sur ce plan.
Oui, c'est ça en fait.
Pendant que la Terre tourne.
Ouais. Lui, c'est pas le
lui, il bouge pas tourne. En fait. Ouais. Lui, il reste dans la même direction de l'espace. Ouais. Mais comme la Terre tourne, et bien, et c'est pour ça que c'est dans le mouvement rétrograde que tu observes ça. On a l'impression qu'il va.
Alors, qui tourne,
au sens inverse en fait de la rotation de la Terre, parce que la Terre a tourné, lui il est resté à la même place et il est resté dans la même direction, et du coup effectivement dans le sable on voit les marques qu'il laisse et on voit qu'effectivement il se décale. Et c'est pour ça en fait que tu as précisé qu'on le lâche en brûlant une corde, c'est-à-dire on l'attache avec une corde, on la brûle et on lâche. En fait ça c'est hyper important
pour pas lui donner un mouvement.
C'est ça, c'est-à-dire que si tu le lances à la main, en fait, tu vas forcément lui donner une direction, un truc. Tu vas pas arriver à être pile dans le mouvement uniquement dû à la gravitation qui te permet d'avoir vraiment un bon alignement des choses. Donc, et surtout, tu le lâches sans vitesse initiale aussi. Donc, c'est pour ça qu'on le lâche comme ça.
Poids.
Mais c'est assez important, si tu le lâches pas comme ça, ça fausse la manip.
Et
effectivement, c'est une démonstration expérimentale directe du fait que la Terre tourne. Et c'est une des expériences historiques les plus connues. Ouais.
On peut imaginer un énormément plus long et qui démontrerait la rotation de notre galaxie sur elle-même.
Ouais.
sur des milliers d'années.
Mais il faudrait faire ça ailleurs que sur la Terre, alors.
Ouais, ou ça s'additionne au mouvement de celui sur la Terre.
C'est ça. Donc, ouais. On pourrait l'imaginer. C'est ok. Bon,
j'ai un but.
Je ferais bien ça dans
un la but dans la vie, ça y est.
Sinon, dans la cathédrale, a dit peut-être moyen de. Il y a une bonne hauteur déjà.
Moi, je me suis quand même aussi toujours posé la question par rapport à la façon dont tu l'accroches en haut. Ouais. Est-ce que, en termes de frottement, tout ça.
Oui, il y a plein de facteurs.
Parce que la coupole, elle tourne. La coupole où, à laquelle est accroché le.
Ah bon. Ah oui.
Bah, elle tourne avec la Terre.
Ah oui, d'accord. Oui.
Donc il ne faudrait pas que ce truc-là, ça vienne
empêcher. Pas de frottement qui empêche.
Ouais.
Alors Foucault, et je ne l'ai pas dit, mais c'est l'inventeur aussi de l'oscillateur. Cette machine qui peut tourner dans tous les sens et sans frottement. C'est-à-dire que c'est que des axes. Le gyroscope, pardon.
Ah oui, d'accord.
Le gyroscope. Ouais. Ça, c'est hyper important dans les fusées. Et donc, j'imagine qu'il a inventé un système pour accrocher le pendule avec peu de frottement.
Ouais,
à partir de ça.
Oui, on a plus l'expérience est précise.
C'est ça. Ouais. Ouais.
Et oui, parce qu'on peut faire aussi l'expérience de la rotation de la Terre avec un gyroscope. Si, vous savez, le gyroscope qu'on joue avec quand on est enfant, on se le met au bout du doigt, on le fait tourner, et peu importe l'axe qu'on lui donne, il tient et il tourne. Et bien on fait ça posé au sol, et lui il va garder son axe et la Terre va tourner.
Ah ouais, même genre quoi. Mais...
Ouais, t'as beau bouger la main, il garde toujours un axe. Et ouais, j'avais vu d'ailleurs un documentaire réalisé par des gens qui pensent que la Terre est plate et qui entendent parler de cette histoire. Ils se disaient, ah bon, mais donc si on a un gyroscope assez précis, enfin on va essayer. Et en fait, ils investissent dans des gyroscopes de plus en plus précis, des gyroscopes laser, des trucs, je ne sais même pas comment ça marche. Et pour arriver à chaque fois à la conclusion que la Terre est ronde et qu'elle tourne. Ils disent, non, mais c'est parce que notre gyroscope n'est pas assez précis.
C'est sûrement ça.
Continuer à investir dedans. Et non, bon. Voilà. Bah, merci, Pierrick et Léon Foucault.
On va passer à la suite. Et là, Axel, tu vas nous parler de l'hypertélescope de Barcelonnette.
Exactement. À Barcelonnette, petite commune pas très, très loin de Gap, on va dire. En tout cas, depuis chez nous, il faut passer par Gap pour s'y rendre. Dans la vallée de Lubaye, dans les Alpes. C'est à la limite du parc national du Mercantour. Et c'est là-bas que des scientifiques ont décidé d'installer ce fameux hypertélescope. C'est un projet qui a déjà quelques années, hein, puisqu'ils ont commencé ça en 2011. Déjà à chercher une vallée qui allait pouvoir contenir le télescope qu'ils avaient imaginé. Puisque ce télescope, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Vous voyez, par exemple, on en a parlé quelques fois dans l'émission, mais le télescope d'Arecibo, qui n'existe plus, enfin qui est plus ou moins, qui est cassé. Le télescope d'Arecibo, on s'est servi d'une cuvette dans le sol pour construire une grosse parabole en béton, avec au-dessus une nacelle qui faisait le miroir secondaire.
On précise que c'était un radiotélescope.
Et c'était un radiotélescope, voilà, c'est pour ça que c'était en béton. Là, l'hypertélescope, c'est un peu le même principe. On va utiliser la géographie d'un endroit, comment on appelle ça, la topographie
topologie.
Là, topologie, oui, c'est ça. La topologie d'un endroit et les reliefs naturels pour disposer des instruments qui vont nous permettre d'observer le ciel. Donc Arecibo, comme j'ai dit, voilà, c'était... En radio, et c'était assez vaste, et c'était d'une pièce. Là, l'idée, c'est plutôt de faire de l'interférométrie, donc de disposer judicieusement plusieurs petits télescopes à différents endroits d'une vallée, et de placer au-dessus une nacelle, de la même façon, qui recevra les faisceaux de tous ces télescopes. Donc il fallait une vallée disposée d'est en ouest. Ils ont fini par trouver la vallée de la Moutière, à 2100 mètres d'altitude, donc assez loin de toute activité humaine qui pourrait porter préjudice à l'observation du ciel. Et derrière tout ce projet, eh bien, il y a, entre autres, Antoine Labéry, professeur au Collège de France, et qui est en fait rien de moins qu'un des pionniers de l'interférométrie. Ses travaux, ils ont déjà servi à Calerne, l'observatoire de la Côte d'Azur, sur le grand interféromètre à deux télescopes, le GI2T, mais aussi au VLT, qui est sûrement l'interféromètre le plus connu.
Labéry, c'est un grand nom de l'optique. Hein.
Ah, ouais, ouais.
Mais là, tu parles de quelle année, du coup, pour cet hypertélescope ?
Alors ben là, le projet en lui-même, il a commencé en 2011, en se basant sur ses travaux.
Ah oui, lui, il n'est pas impliqué.
Je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné sur Antoine Labéry, ouais, plus que ça.
Il semble qu'il est quand même d'une autre génération.
Ouais. Alors là, l'intérêt de faire ça, donc là on parle en optique, hein, ce serait vraiment des miroirs qui seraient placés de part et d'autre de cette vallée, sur les deux versants et au fond de la vallée. Au-dessus, à environ 100 mètres, des câbles, 6 câbles, qui soutiennent une nacelle optique, et la nacelle optique sera mobile. À terme, il prévoit de mettre 800 miroirs de 15 cm chacun, des 150, des télescopes de 150 mm, mais d'en mettre 800 en parallèle. Alors pour l'instant, le prototype qui tourne déjà, il y en a 57, il n'y a pas encore 800. Il n'y en a pas 57, mais alors j'ai pas noté combien. Bon, pardon. Avec les 800 miroirs, ça atteindra une surface virtuelle de 200 mètres de diamètre. l'équivalent d'un télescope de 200 mètres de diamètre. Et le prototype actuel, donc, il en est à 57 mètres de diamètre. Ce qui est déjà pas mal.
Et déjà énorme, ouais.
Ce qui est déjà plus que l'extra large télescope qui est en construction au Chili et qui atteindra 39 mètres de diamètre. Mais en plus, ça a l'intérêt, l'extremely large télescope de 39 mètres, c'est plusieurs miroirs qui sont jointés entre eux. Ce n'est pas un seul miroir de 39 mètres. Là, on parle plutôt de télescopes dilués. Les miroirs ne seront pas jointés entre eux, ils seront disposés de part et d'autre, comme je disais judicieusement. Parce que je rappelle quand même que les 5 plus gros miroirs d'un bloc qui existent aujourd'hui, c'est des miroirs de 8,40 m. Il y en a 4 qui sont au VLT, au Chili aussi, Very Large Telescope, et le 5e à Hawaï, l'observatoire Subaru, enfin le télescope Subaru. Ça, c'est les plus grands miroirs qu'on a aujourd'hui. Et je vous renvoie à l'émission où Pierrick, je crois, avait parlé... Non, c'était Fred qui avait parlé des grands télescopes. Donc voilà, d'un bloc, c'est 8,40 m. De plusieurs blocs collés entre eux, bientôt, ce sera 39 mètres. Et là, on parle de 200 mètres avec 800 miroirs de 15 cm chacun.
Après, ce n'est pas tout à fait équivalent quand même. Enfin, en fait, ça simule un miroir de, ouais, de 200 mètres.
Ouais.
Mais ça n'a pas non plus... les mêmes capacités qu'un vrai miroir,
oui,
de 200 mètres.
C'est sûr. Mais ça a quand même...
Mais ça a des capacités énormes.
Ça a quand même des capacités énormes, oui, qu'on n'a jamais vues aujourd'hui. Oui. On parle d'une résolution 5 fois plus grande que le Extremely Large Telescope. Ouais, j'ai pas noté, mais un pouvoir séparateur du centième de milliseconde d'arc. Là, enfin,
un centième de micropouillème.
Ah oui, c'est ça, oui, exactement. Voilà, mais par contre, l'intérêt comparé à ces grands télescopes hypothétiques ou en construction, c'est le coût qui est bien moindre. Le coût d'un télescope comme ça, que ce soit en fabrication, en transport, en installation, c'est peanuts. Ça ne nécessite pas de couler des milliers de mètres cubes de béton, des choses comme ça. Donc ça a quand même un intérêt actuel, et notamment en termes d'écologie. Tiens, je peux te dire un petit mot d'ailleurs sur l'impact écologique de ce télescope dans cette belle vallée de la Moutière. Peut-être que vous avez randonné là-bas et vous vous dites « Ah ben mince, ça va être dommage ». Et bien en fait, chaque miroir, chaque télescope est posé sur un trépied démontable, il n'y a pas de fondation. Le local technique, c'est une tente, une sorte de tipi posée sur une plateforme en bois et qui est démontée à la fin de la saison. Pendant la saison, c'est utilisé et dès qu'il fait trop froid là-haut et que les conditions deviennent trop mauvaises, c'est démonté. L'électricité provient de sources photovoltaïques, qu'on ne tire pas des grands câbles et des pylônes qui viennent du fond de la vallée pour amener l'électricité. Il prévoit même qu'aucun réel accès ne sera créé. Il n'y aura même pas un sentier, conformément à la réglementation du parc du Mercantour. On n'a pas le droit de créer des nouveaux sentiers. Et en plus, un petit bonus, l'équipe d'astronomes sur place est formée à l'observation des oiseaux et donc participe aussi à l'étude de l'avifaune locale, notamment à la réintroduction du gypaète barbu qui a lieu par là-bas.
Mais alors, s'il n'y a pas de sentier, ils comptent y aller comment, alors, télescope, enfin, juste question.
Je pense qu'il y a déjà un sentier, c'est qu'ils n'en créent pas de nouveau, ils ne créent pas de piste, ils ne créent pas de route.
Donc ils partent à pied, quoi. Ils vont
peut-être bosser
à pied, faire un petit 1000 mètres.
Par hélicoptère.
Par hélico.
Ouais.
Ou peut-être par hélico.
Et alors, il y a des choses qu'on n'a jamais vues aussi avec ce type de télescope, d'interféromètre. C'est que, vous allez me dire, comment on suit le ciel? Comment on suit la cible? Puisque la Terre tourne, il faut bien suivre la cible de la soirée. Et bien, ce n'est pas les miroirs qui bougent, c'est la nacelle en haut qui va pointer le reflet dans chaque miroir et capter ainsi les lumières lointaines à l'étude.
Elle va dévier la lumière? Je sais pas compris.
Non, t'as la nacelle, t'as le miroir en bas qui pointe forcément vers le ciel. Voilà, il est braqué vers le ciel. La Terre tourne. Et pendant le déplacement de la Terre, l'étoile, par exemple, que tu vas cibler, son reflet va se déplacer sur le miroir. Et sur tous les miroirs en même temps, parce qu'ils sont quand même calés en parallèle. Et la nacelle en haut, à 100 mètres, sur ses câbles, grâce à des tout petits jeux sur les 6 câbles qui vont tirer avec des moteurs pas à pas, ça va suivre le reflet
de
tout le... Un peu comme tu peux suivre sans bouger, en bougeant très légèrement la tête, tu peux suivre le reflet d'un avion sur ta fenêtre, ou le reflet de quelqu'un sur ta fenêtre. tu regardes comme ça et tu n'as pas besoin de gros mouvements. La fenêtre ne bouge pas, le reflet ne bouge pas vraiment. Mais c'est toi qui vas suivre avec tes yeux.
D'accord. Ah ouais.
Donc voilà, ça demande beaucoup moins d'énergie de déplacer juste le capteur plutôt que tous les miroirs. Et même, ils ont imaginé pouvoir mettre plusieurs nacelles sur les câbles et du coup utiliser, alors on va dire qu'il est fini, voilà, le télescope fait 200 mètres virtuels. Eh bien, on va utiliser 100 mètres avec une nacelle, 50 mètres avec une autre nacelle qui va pointer un autre reflet, et 50 autres mètres avec une autre, et avec le même, la même installation, finalement, faire plusieurs observations à plusieurs endroits différents dans la même nuit, en simultané.
Il y a une date prévue de
fin? Je n'ai pas trouvé ça, je pense qu'il s'avance pas trop. mais ça sert déjà, il y a le côté aussi où c'est évolutif, tu vois, l'extrêmement large télescope. Il faut qu'il soit fini pour s'en servir. Alors que là, on peut s'en servir déjà et tous les ans ramener un peu plus de miroirs et agrandir petit à petit.
Oui, parce que là, tout est en place.
Il y a un côté modulaire et évolutif comme ça.
Ouais. Ah ouais.
Et qui est-ce qui finance tout ça?
C'est le contribuable.
Non, bah, mais c'est quoi? C'est un projet CNRS? C'est l'Agence spatiale européenne?
Alors, je crois que c'est en lien avec. Non, mais j'ai peur de dire des bêtises.
Ou une université.
Non, je crois que c'est universitaire. Il y a l'Observatoire de Côte d'Azur qui est dans le coup. D'ailleurs, il y a eu des tests. Il y a eu des tests à l'OHP. Il y a eu un premier prototype à l'OHP avec quelques miroirs. Évidemment, ils n'avaient pas la vallée pour tous bien les placer facilement. Mais avec une nacelle optique suspendue à un ballon. Un ballon qui était fixé au sol quand même. Un ballon qui portait cette nacelle optique. Et voilà, ils ont pu faire des tests à l'OHP, donc l'Observatoire de Haute-Provence. Je crois qu'il y a eu un appel aux dons, aussi aux citoyens, aux dons citoyens pour faire ça. Et d'ailleurs, si l'envie vous en prend ou nous en prend, je m'adresse à vous, mes collègues, ils organisent des visites de cet observatoire. Et on peut, il y a un formulaire sur le site internet, vous tapez Hypertélescope de Barcelonnette sur internet et vous tomberez sur le site où vous pouvez demander un rendez-vous et peut-être avoir la chance d'aller visiter tout ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. S'il pense quand même, dans les promesses, à terme, quand il sera fini, pouvoir carrément imager la surface des exoplanètes se trouvant à moins de 10 années-lumière de nous. Et ça, à l'heure actuelle, personne ne peut se draguer de faire ça.
C'est aussi un peu le genre de rêve qu'ils ont pour l'extra-large télescope.
Oui. Ça va être un
même genre de choses. Ouais. Ça, c'est la prochaine génération.
Ouais, c'est ça.
Non, mais ce qui est vraiment intéressant dans ce projet-là, c'est le coût, enfin, quelque part, c'est le coût, l'impact.
Ouais.
Enfin, c'est
la facilité presque que ça représente. Ouais.
C'est intéressant, quoi. Parce que c'est évident qu'un projet comme le ELT, c'est une usine à gaz pas possible.
Et oui.
En plus, c'est au Chili, au milieu du désert, tatati, on commence par créer une route, etc. Enfin, c'est une monstrueuse installation.
Ouais.
Alors que là, on a quelque chose de beaucoup plus léger. S'ils arrivent à faire fonctionner ça, c'est sûr, c'est un super projet. Ouais.
Voilà, et même dans leurs rêves pour le futur, ils ont imaginé une version spatiale d'un immense interféromètre. Ils ont déjà fait un test, donc ce serait plusieurs miroirs qui volent un peu en formation dans l'espace, qui évoluent, c'est pas vraiment qui volent, qui évoluent dans l'espace plus ou moins en formation. Alors ça nécessite d'être plutôt au point de Lagrange pour avoir le moins d'impact, enfin d'interférence de la gravité qui vont faire déplacer de façon non contrôlée, on va dire, les miroirs. Donc voilà, plusieurs miroirs qui volent en formation dans l'espace et un peu plus loin aussi dans l'espace, un télescope un capteur qui va regarder c'est le reflet produit par ces miroirs. Donc le test qu'ils ont déjà fait, ils ont atteint une surface virtuelle de 100 km. Un équivalent, comme tu disais, c'est pas tout à fait équivalent, mais un télescope de 100 km de diamètre. Et ils ont imaginé pouvoir en faire un qui pourrait atteindre les 100 000 km de diamètre. Avec une flotte de quelques centaines, je crois, seulement de.
Ouais, en plus, l'intérêt, c'est que tout est petit.
Ouais.
Il n'y a pas de gros trucs.
Ouais.
Et ça, c'est important aussi. Ouais.
Ah ouais, on sort un peu de la démesure.
Ouais.
Actuel et
il y en a beaucoup,
cette course à au diamètre comme tu disais, qui implique des moyens techniques et de ressources immenses. Mais là, on casse un peu ça sans se priver de pouvoir observer toujours plus loin et toujours plus petit.
C'est peut-être l'avenir, ce genre de projet. Eh bien, merci Axel. On va clôturer là cette émission pour cette semaine. On espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Et on vous souhaite de belles observations. À la semaine prochaine.
Ciao.
Salut.
Et rendez-vous vendredi, samedi pour On the Moon Again à Place de la République.
Le 6 et 7 juin.